you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morsdinck, en réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Emmanuel Giuliani, Anna Segalevitch et Laurent Burri. Notre programme Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc. Direction Kent Nagano, mise en scène Mitri Tchernakov. C'est en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique, tout comme Wonderful Town de Leonard Bernstein, dirigé par Larry Blanc, mise en scène par Olivier Benezé. Un disque de Luca Geniusas consacré à Prokofiev chez Mirard, et puis un coup de cœur d'Emmanuel Giuliani pour un livre, La vigne écarlate de Vincent Borel chez Sabine Vespizer, complète le programme de cette émission. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Plaisirs Inconnus du CCN Ballet de Lorraine. Ce sont des places à gagner pour vendredi 18 janvier à 20h30, ce sera au Théâtre de Chaillot à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec la sortie en DVD et Blu-ray chez Bel Air de classique des dialogues des Carmélites dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov. Ça engage que moi, génial. Metteur en scène russe s'est attaqué au chef-d'œuvre de Poulenc et les héritiers de celui-ci ont attaqué en retour le metteur en scène puisqu'ils ont souhaité interdire la diffusion télévisée, la commercialisation de ce DVD, de l'enregistrement du spectacle capté au Bayerische Staatsoper de Munich en mars 2010. On y reviendra ou pas, sans doute quand même. C'est la fin de l'opéra qui a surtout créé cette polémique dans la version de Tchernakov. Des carmélites qui ne sont plus carmélites, on en reparlera aussi, s'enferment dans une maison où elles semblent donc vouloir se suicider au gaz avant que Blanche de la Force ne vienne les sauver une à une avant de périr elle-même dans l'explosion. Cette interprétation a été donc très contestée. La cour d'appel de Versailles a définitivement clos l'affaire le 30 novembre dernier, laissant le dernier mot au public, ça tombe bien, comme ça on peut découvrir, redécouvrir ce DVD, on redécouvrira cette communauté de femmes qui vivent donc recluses dans une maison, peut-être dans les bois, dimension carmélite, je l'ai dit, plutôt ici gommée par Tcherniakov, tout comme cette révolution française n'est plus non plus tellement présente, on a plutôt un état sécuritaire. On rappelle quand même que dans l'œuvre originale adaptée d'un scénario posthume de Bernanos lui-même, adapté d'un autre ouvrage, Blanche de la Force annonce à son père son intention d'entrer dans l'ouvrage original au Carmel. Elle est devenue novice et Blanche va vivre les derniers jours de sa congrégation mise à mal dans l'ouvrage, dans le livre original par la Révolution française. Notez que c'est Andy Sommer qui a signé la réalisation de la captation dont nous écoutons un extrait. Thank you. Voilà pour ce court extrait de cette captation DVD de Dialogue des Carmélites. Dans cette mise en scène, il va falloir quand même qu'on commence par là, cette mise en scène de Dmitri Tcherniakov. On va reparler bientôt de Tcherniakov. On verra ce qu'il fera des Troyens de Berlioz à l'Opéra de Paris dans quelques semaines. 15 jours peut-être, 3 semaines, je ne sais plus. Emmanuel Giuliani, pour commencer.
Alors, je suis assez comme vous, trouvé qu'il y a chez Tcherniakov un génie, parfois latent, parfois pas tant. Et en tous les cas, il y a cette dualité qui est toujours assez fascinante chez lui. Pour résumer, quand il adapte, quand il met en scène, vous voyez le lapsus déjà, des opéras notamment du répertoire russe, on le trouve magnifiquement fidèle avec certaines idées, plastiques et visuelles très belles, mais dans l'ensemble. Voilà, avec une vraie fidélité. Et quand il se saisit d'autres œuvres, on se rappelle la Carmen notamment, dans le Giovanni et au Festival d'Aix-en-Provence, le Trouvert et j'en passe. Là, il y a de l'adaptation, de la réinterprétation. Et en fait, il raconte l'histoire qu'il a envie de raconter en prenant prétexte.
Il peut changer les liens entre
voilà,
les personnages.
Voilà, exactement, en prenant comme socle, voilà, plus ou moins, que l'on reconnaît plus ou moins, donc, un ouvrage. Alors, ça pose d'abord la question pour le public de savoir comment un très grand ouvrage, et là on est en face vraiment d'un absolu chef-d'œuvre, tant au point de vue du livret que de la musique, résiste. Quelle est la force interne d'un ouvrage pour résister à ce genre de traitement? C'est toujours intéressant de se poser la question. Puis après, selon sa sensibilité, le moment où on le voit, si on le voit en vrai ou etc., on accepte ou on n'accepte pas. Pour ces dialogues, moi j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, parce que je peux tout à fait concevoir des dialogues sans Révolution française, je n'arrive pas à concevoir des dialogues sans Dieu. Voilà. Moi c'est un problème, et il ne m'a pas convaincue en remplaçant par des rapports psychologiques profond et réel et bien représenté des questions qui sont quand même aussi qui ont une très forte dimension spirituelle et avec des représentations et des conceptions de la spiritualité extrêmement différentes, notamment entre Mère Marie et Madame Lidoine. Le fait d'évacuer ça, pour moi, et musicalement et dramatiquement, et voilà, là, vraiment, on tombe sur une impasse et moi, je n'ai pas réussi à franchir cette impasse-là.
Ouais, ça, le livret est là. Alors, la seule chose qu'on voit, c'est la statuette, mais c'est bien obligé parce que il en est question et qu'elle est cassée.
C'est une poupée, là. C'est même pas un...
Il y a une représentation.
Bah, c'est un bébé. On a l'impression de voir une poupée.
Il a une petite... pas une auréole, mais il y a quelque chose derrière. On voit que c'est quand même une statue un peu sainte.
C'est la seule trace, on va dire, qui reste du religieux. Laurent Burry, sur cette adaptation, parce que c'est vrai que c'est le mot qu'il faut quand même employer.
Oui, enfin, je rebondis sur ce que Emmanuel vient de dire à propos de Tcherniakov. Quand il monte des opéras russes, en général, c'est en Occident, où ces opéras-là sont très peu connus. Et donc, il est un peu, malgré tout, tenu de nous les raconter de façon peut-être plus directe. Lorsqu'il monte des opéras du répertoire occidental qui nous est plus familier, c'est là aussi qu'il se donne une plus grande marge de liberté. Donc je pense qu'il faut aussi tenir compte de cet aspect-là parfois. Pour ce qui est de Dialogue des Carmélites, je pense que sa mise en scène a choqué beaucoup à l'époque où elle a été créée, il y a maintenant... presque 10 ans.
On entend bien les huées sur le DVD au salut.
Oui, notamment. mais parce que c'est peut-être la première véritable tentative d'actualisation de l'œuvre. Depuis, Christophe Honoré a fait quelque chose de plus ou moins semblable à l'Opéra de Lyon, lorsqu'il a monté lui-même Dialogue des Carmélites, où on voyait aussi les religieuses en tablier. Alors, dans un lieu qui ressemblait peut-être davantage à ce qu'un couvent est aujourd'hui, mais après tout, c'était un peu la même démarche. Donc, je pense que Tcherniakov a essayé sincèrement de transposer l'action des Carmélites dans un autre temps, et que dans ce cas-là, il s'est placé aussi face à un problème différent, qui était d'imaginer un lieu où ces femmes pouvaient choisir de s'isoler du monde, qui n'était pas une institution officielle comme l'est le couvent où vivent les carmélites, mais qui est au contraire quelque chose qui ressemble plus à une secte, mais dont je ne suis pas sûr que la spiritualité soit absente pour autant. Ça n'est pas parce qu'elle n'est pas représentée par les signes traditionnels, c'est pas parce qu'il n'y a pas de crucifix, parce qu'il n'y a pas de costume, de... c'est parce qu'il n'y a pas de robe de bure que ce n'y a pas la même, peut-être, ferveur qui les unit, toutes ces femmes.
Donc plutôt...
Mais moi, en tout cas, je ne suis pas choqué.
Pas choqué.
Mais peut-être parce que aussi, en fait, tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit, mais ce DVD fait sa ressortie. Il a connu une première vie chez les disquaires. Il a été retiré des magasins à cause des procès intentés par les ayants droit. Voilà, il a fallu détruire, ou peut-être ils en ont gardé, mais ils ont caché.
Officiellement détruit.
Officiellement détruit. Donc le DVD revient sur le devant de la scène. Et c'est donc une production à laquelle nos esprits ont peut-être eu le temps de s'habituer. Et moi j'avoue que quand je l'ai visionné, je n'avais pas vu non plus à la création, je n'ai pas été choqué et j'ai même été très ému par la fin, qui effectivement est le principal sujet de discorde.
Anna Segalevitch, enfin, pour se
alors,
remettre au
c'est vrai
terme.
Que cette production est quand même chargée de toute son histoire. Donc du coup, moi je connaissais la fin avant de voir le DVD, en fait. Oui. Donc forcément, ça
c'est un feuilleton judiciaire assez long.
Le regard, voilà. Ça, et puis évidemment, on a envie de s'insurger contre le fait que le DVD était interdit, contre la censure, contre ça. Bien sûr. Mais donc du coup, moi je suis honnête, ça a conditionné ma vision. Et donc j'attendais cette fin, et sachant en sachant en même temps comment elle serait, mais je l'attendais. Bon, alors je suis plutôt de l'avis de Laurent, parce que certes il n'y a pas de signe de religiosité, mais je trouve que la foi on l'a dans tous les personnages, et qu'on a vraiment le parcours de Blanche, qui a un parcours christique où on voit complètement son évolution, où c'est une sorte de passion en fait qu'elle vit tout pendant tout le DVD, Blanche de la Force ici, avec une vraie idée au départ quand même qui est importante. Donc au départ, avant que la musique commence, on a la foule qui est en scène, qui circule dans tous les sens, avec Blanche de la Force qui est au milieu de cette foule perdue, qui est son écharpe sur son nez, qui n'arrive même pas à respirer, en fait. Elle est là, plantée, face à la foule qui circule, au bruit de voiture, etc. Et puis ensuite, la musique commence. Et pour moi, Tchernyakov dit quelque chose, c'est que pour moi, il y a un rapport incestueux, en fait, entre le frère et la sœur. C'est ce que j'ai vu. Bon, peut-être que je délire, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, parce qu'après, quand il revient la voir et qu'il lui dit mon petit lièvre, mais non, je suis plus ton petit lièvre, c'est terminé, en fait, tout ça.
Oui, enfin, ça, c'est
oui,
le livret.
Oui, mais ça, c'est le livret, mais pour moi, la façon dont le frère touche, il y a quelque chose de très charnel, je trouve, dans la mise en scène de Tchernyakov, où, à la fois, la prieure, Madame de Croissy, touche beaucoup Blanche. Pareil avec Marie, avec la... Enfin, il y a quelque chose de charnel et de traumatisme physique. Et pour moi, la communauté de ces femmes est une communauté qui s'extrait du monde parce qu'elle ne supporte plus. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a un côté, je ne sais pas si vous connaissez la série The Leftovers, où c'est des gens qui ont disparu. C'est une série qui est très à la mode, où c'est des gens qui ont disparu. Et certaines personnes refusent l'acceptation de cette disparition et s'extrait du monde, et elle fume tout le temps. D'ailleurs, elle fume aussi dans ses... Bref, The Last Over, c'est après, c'est anecdotique. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, pour moi, c'est pertinent par rapport à ce que raconte le livret de Bernanos et de Poulenc, qui est c'est une réflexion sur la liberté, c'est une réflexion sur le déterminisme, sur les choix qu'on fait, sur le rapport qu'on entretient chacun avec la mort, qui est très différent, qui est très complexe. Et pour moi, on a toute cette complexité dans le spectacle.
Voilà, une richesse de lectures nombreuses. Il ne s'agit pas de convaincre les uns et les autres.
Oui, bien sûr.
Il manque Dieu à Emmanuel Giuliani dans cette production. Est-ce qu'il manque de musique? Parlons quand même et de la direction de Kent Nagano et de ce plateau vocal dans ce temps qui file, Emmanuel Giuliani.
Alors, Nagano, c'est un très grand connaisseur, appréciateur, etc., de cette musique, des dialogues en particulier, et avec une espèce d'engagement et de romantisme, si on peut employer ce terme, totalement anachronique, qu'on lui connaissait pas forcément dans cette partition, et avec cet orchestre, qui a son opulence, là, de la même manière, qui est pas forcément celle qu'on attend a priori dans cette musique, mais moi je trouve que ça fonctionne très très bien, à quelques problèmes qui sont assez forts pour certaines des protagonistes, de diction, près, qui rendent quand même la communication entre ces femmes parfois un peu baroque, parce qu'on se dit comment a-t-elle réussi à comprendre sa consœur alors que moi j'ai rien compris, et elle lui répond dans un français parfait, alors voilà. Donc ça donne une espèce de petite étrangeté pour le public francophone, mais autrement c'est un plateau qui a de très très beaux atouts, qui a, avec une prononciation parfois un peu défaillante, mais le timbre absolument radieux de Soleil Isokoski. Et moi, j'aime bien l'idée d'une Madame Lidoine, qui est quand même un personnage mais sublimissime dans tout ce qu'elle dit et dans tout ce qu'elle incarne. Et avoir cette voix d'héroïne d'une telle fraîcheur, ça c'est magnifique. Avec une très merveilleuse Hélène Guillemette en Constance, avec un Bernard Richter d'une très grande sensualité, d'une très grande présence en Chevalier. Donc il y a des très belles choses musicalement. Mais c'est vrai qu'il faut prévenir l'auditeur français que ça va tirer un peu à hue et à dia, et on se dit combien doivent souffrir nos amis allemands et nos amis italiens d'entendre en permanence leur langue massacrée sur les scènes d'opéra. Nous, quand ça nous arrive, on souffre, notamment quand le texte est si sublime.
On l'entend bien. Anna Sekelevitch,
vous voyez. Oui, j'ajouterais aussi quand même Sylvie Brunet qui
Mais bien sûr, dont on vient d'entendre. Bien sûr. Et qui est la grande prieure.
Toute cette première partie de façon complètement hallucinante dès l'arrivée, parce que donc Blanche arrive au Carmel, et il y a toute une grande scène. Elle, franchement, c'est génial ce qu'elle fait. On emploie trop ce mot, mais là, franchement, c'est génial.
C'est une immense
elle
artiste.
Elle a une intensité dramatique, une tenue, une façon de déclamer, la beauté du timbre, l'expressivité, la diction, n'en parlons pas. Franchement, c'est hallucinant. On la regarde comme ça, les deux grandes scènes sont vraiment au sommet.
Laurent Burie.
Ce qui est incroyable, c'est que, à ma connaissance, c'est la seule captation de Sylvie Brunet dans ce rôle qu'elle interprète quand même très souvent. Et je crois que jusqu'ici, aucun disque, aucun DVD n'avait gardé la trace de cette interprétation.
La mise en scène d'Honoré, elle n'a pas été captée, donc.
Pas que je sache, en tout cas pas diffusée, pas commercialisée. Elle n'est pas commercialisée.
On n'a pas fait une dispute.
Ah bon? Je me rappelle, c'est
Olivier Pie qu'on a fait une
dispute. Ah oui,
parce qu'il y a eu beaucoup ces dernières années. Alors peut-être que c'est compliqué aussi de sortir beaucoup de DVD du même ouvrage.
Il aurait été dommage qu'elle n'ait pas laissé une trace.
Plus que dommage.
Cela dit, pour le reste de la distribution, j'abonde aussi, et j'irais même au-delà de ce qu'a dit Emmanuel concernant le français. C'est vraiment, vraiment difficile, surtout dans un opéra qui repose beaucoup sur le texte. On ne peut pas se laisser bercer par des mélodies dans le dialogue des Carmélites. Donc, quand on comprend si peu de choses, c'est quand même très gênant. Et on se demande comment faisaient les chanteuses des années 50-60 qu'on arrivait à comprendre tout le temps.
Et Sonagano ? Tiens, enchaîner Laurent Burie.
Oui, alors Nagano, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend particulièrement tout ce qui a pu être les sources musicales de Poulenc. On entend dans cette version, on entend Péléas parfois. Alors ça, c'est peut-être aussi lié à Sylvie Brunet, qui est une Geneviève experte aussi. On entend aussi du Moussorgsky, on entend des choses comme ça qu'on entend rarement dans les interprétations habituelles.
Anna Sekelevitch,
je suis d'accord, je trouve qu'on entend vraiment de l'opéra russe, en fait, on entend du Moussorgsky, on entend même dans les scènes entre Blanche et Constance, du Onegin, il y a du Tchaïkovski, enfin c'est joué comme ça, comme vous le disiez Emmanuel, c'est vrai qu'on n'a pas... La version qu'il avait gravée au disque dans les années 90 est très différente avec l'orchestre
et la patte de Lyon.
Nagano, les deux sont très différentes, là c'est vrai que c'est beaucoup plus épais, mais donc du coup, donc ça enlève... Bien sûr, de la transparence, mais en même temps, ça gagne aussi en lyrisme,
en
matière, en texture, en couleur et puis en tenue dramatique. Parce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière et c'est tenu quand même d'une main de maître sans déborder non plus. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Peut-être que stylistiquement, c'est pas ce à quoi on est habitué, mais. Moi, c'est une façon
c'est à l'image de la mise en scène, c'est assez différent
de
ce qu'on a pu voir jusque-là ou entendre jusque-là. Mais c'est vrai que j'ai entendu cette œuvre comme je ne l'avais jamais entendue dans cette version-là, vraiment avec une...
Alors, je crois que les gens qui y ont assisté en direct, ce qui était assez compliqué, c'est que cette cabane, la maison étouffait pas mal les voix.
Et qu'elle faisait un petit bruit de moteur quand elle se déplaçait.
Ouais, mais ça, ce sont les critiques négatives qui ont repéré ça.
Et que paradoxalement, et ça je trouve que visuellement, plus le fait qu'elles n'aillent pas à la guillotine, en effet, mais c'est surtout que, alors que la musique se raréfie, qu'elles sont moins nombreuses, au contraire, elles sont plus là. Et ça, moi, je suis vraiment...
Oui, mais elles chantaient à l'intérieur de la cabane. Et quand elles en sortent, elles ne chantent plus.
Oui, parce qu'elles tombent.
C'est normal qu'elles arrêtent de chanter en sortant de la cabane.
Oui, mais quand même...
C'est une inversion.
C'est une logique.
Oui. Ouais. Ce qui me gêne beaucoup plus personnellement dans la cabane, c'est que avec toutes les colonnes, tous les piliers qu'il y a dedans, on a beaucoup de mal à voir les chanteurs. Oui. Ils sont à travers un filet constamment. Quand il y a des gros plans, on voit le quadrillage du grillage.
Andy Summer a du mal à.
C'est très difficile à filmer à cause de ça. Il y a des moments où on voit que ça a été filmé de biais, un peu comme si c'était des paparazzi qui essayaient de capturer les.
Les chants contre chants fonctionnent pas. En
oui,
fait.
C'est pas du tout pratique à filmer.
Bon, mais en tout cas, c'est en DVD et en Blu-ray, donc c'est comme ça qu'on peut le voir. Et tant mieux que ce DVD. Existe, celui des dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, dirigé par Kent Nagano, mis en scène par Dmitri Tcherniakov chez Bel Air Classique. À suivre dans la dispute Wonderful Town, Prokofiev et Vincent Borel.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique avec Wonderful Town de Leonard Bernstein, dirigé par Larry Blanc, mise en scène Olivier Benezèche, c'est en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique également. Il s'agissait là de la création française de cette comédie musicale de Bernstein, c'est à l'Opéra de Toulon avec son orchestre et son chœur. On va suivre dans cette œuvre les sœurs Sherwood qui quittent leur Ohio natal pour la grande ville de New York. L'une est chanteuse, l'autre est écrivaine. Ce n'est pas là leur seule différence. C'est un ouvrage qui a été composé 4 ans avant West Side Story, mais c'est déjà une première ode à la grosse pomme, à ses habitants et à son énergie.
I'm scared.
It's all right, darling. Go to bed. Just wait till I get that apophilus.
It's awful.
Never mind, Eileen. Try and sleep.
Oh, I can't sleep.
Try, darling. Make your mind a blank.
I did. But I keep thinking of Ohio.
Oh, Eileen, me too.
Why, oh, why, oh, why, oh, why did I ever leave Ohio? Why did I wander to find what lies yonder when life was so cozy at home?
With Eileen, do be home, dear, by 10.
Oh! Those gossipy neighbors and everyone yapping who's going with whom.
Yeah, I'm dating those drips that I've known since I'm 4.
The Kiwanis Club dance.
On the basketball floor.
Cousin Maud with her lectures on sin. What a bore.
Hazel Black.
Cousin Min.
Ezra Nye.
Anna Finn.
Just hopeless.
Babbity.
Stuffy.
Provincial.
One
Et Laurent Burri va continuer cette ère qu'il a l'air de connaître par cœur. Hein. C'est, on pense aussi à l'usine Como qui a certainement programmé cet ouvrage de Bernstein au sommaire de l'émission pendant que j'étais absent. Non, parce que je suis pas un fou de Bernstein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se dispute tout le temps sur West Side Story. J'ai lu que Steven Spielberg allait faire un nouveau West Side Story. Vous avez vu, il a son cast. 100% latino. Ça changera de...
100%
bah pour la moitié.
Ah oui,
ouais, sur les latinos, qui n'étaient pas très latinos dans le premier film. Là, à l'heure du politiquement correct, il était hors de question qu'il en soit autrement. Bon, bref, après cette aparté ou cette déviation, retour vers cette magnifique ville, Laurent Burri.
Oui, en fait, je préciserais que Wonderful Town, ce n'est pas une première approche de New York avant West Side Story, mais c'est une deuxième après On the Town, qui est le premier musical de Bernstein en 1944.
Je n'ai pas dit que c'était la première. Hein.
Oh.
Alors, ouais, il déclarait déjà son amour pour New York.
Très bien. Donc, il y avait déjà eu une première déclaration d'amour de Bernstein pour New York, qui était On the Town, et quelques années plus tard...
Laurent Burri est chatouilleux sur Bernstein. Hein.
En général.
Monsieur Chatouille en général, j'avoue.
Enfin, le cri du cœur d'Anastasia Galevitch a été entendu.
Bref.
Pourquoi pas?
Donc, c'est surtout une création française, car Wonderful Town.
Ça, j'ai dit aussi, vous avez remarqué.
Jamais, ben oui, je le redis.
Ah bon.
J'abonde dans votre sens.
On aura le droit de le dire une troisième fois. Oui.
Absolument, absolument. Bon, tout le monde pourra le dire.
Arrête de vous taquiner.
Donc, c'était un événement. C'est
bien
d'ailleurs,
sûr.
Je pense
Bravo
que
à l'Opéra de Toulon.
Voilà, c'est la seule maison qui a programmé un inédit en France pour l'année Bernstein, puisque ça a été donné au début de l'année 2018. Et rien que pour ça, ça méritait d'être salué.
L'année du centenaire.
L'année du centenaire, effectivement. Et il se trouve que c'est une des œuvres tout à fait réussies de Bernstein, qui est pleine de morceaux... tout
adorable.
À fait enthousiasmant et adorable. Très réussi. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été jouée avant en France, parce que c'est une œuvre qui tient la route absolument au même titre que les autres comédies musicales bien plus connues de Bernstein.
Même à Vienne, c'est Galevitch.
Sur l'œuvre, ouais. Complètement. Enfin, je trouve que c'est très, 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 très réussi. C'est incroyablement riche. Enfin, on sort de là, honnêtement. Moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7. Il y a 7 morceaux que je trouve formidables, plus 2 séquences que je trouve particulièrement formidables aussi, qui sont entre le théâtre et la musique et le chant, qui sont particulièrement bien écrites et bien réglées. Je pense par exemple à un dîner où il y a 5 personnages qui sont à table, les 2 sœurs, Ruth et Eileen, avec 3 prétendants, et pendant les blancs, parce que tout le monde vient de milieux différents, ils n'ont rien à se dire et ils essayent de parler, on a des cuivres comme ça qui traînent, comme ça, un peu comme des cuivres presque de cirque.
Oui, ou de dessin animé.
Ou de dessin animé qui illustre extrêmement bien la situation. On a plein de choses, on a du ragtime, on a du boogie-woogie, on a une sorte de mambo, enfin de conga, on a...
une balade irlandaise.
Ouais, la balade irlandaise,
fondante.
Absolument, je suis d'accord, absolument formidable, et on sort de là, vraiment, enfin après ces 2 heures d'audition de cette musique, avec beaucoup d'air en tête.
Absolument.
Alors que moi je connaissais pas du tout, j'ai tout découvert, et il y a beaucoup de choses qui me sont restées. Donc, bravo, en effet, musicalement. Et puis même, alors aussi, l'interlude entre les 2 actes, c'est très très beau, la partition, je trouve.
Ah, oui, voilà. C'est là où le chef se lève pour diriger, parce que la plupart du temps, il est assis, vous avez remarqué.
Oui, il est un peu trop assis, d'ailleurs.
Oui, moi, je trouve, on va en reparler, pardon. Mais c'est vrai que là, on le voit, parce que quand
mais
il est filmé, il se lève.
Mais c'est formidablement bien écrit, bien composé.
Un peu particulier. Sur l'œuvre, Emmanuel Giuliani, on a entendu
la même chose. Oui, oui, oui,
moi,
je trouve que c'est une œuvre tout à fait délicieuse, parce que je suis assez inconditionnelle de Bernstein. Et le chef et le compositeur dans sa musique légère comme dans ses pièces plus charpentées, plus exigeantes et tragiques souvent, ça devrait pétiller de toutes parts parce que la musique mérite ça. En effet, le tissage, comme le soulignait Anna, entre le théâtre, la danse, le chant, l'orchestre, c'est fait avec une virtuosité et à la fois une simplicité. On a l'impression, on se dit, ça lui est venu comme ça et paf paf paf, on l'imagine à sa table. Un crayon amusant et un peu nonchalant, alors qu'en fait, c'est une tapisserie vraiment de haute lisse. Après, la question de l'interprétation se pose.
Bon, posons-la, puis je forçais le trait, hein, parce qu'effectivement, je trouve moi-même que c'est une œuvre très réussie, même si ce n'est pas mon goût premier, je trouve qu'il y a quand même une qualité, une folle d'inventivité, et en effet, de différentes tonalités, différentes couleurs, et ce qui est pour le coup, plutôt bien joué par la mise en scène d'Olivier Benegès, qui fait avec... Alors, c'est un tout petit plateau. Hein, quand on sort de l'Opéra de Munich et qu'on arrive sur le petit Opéra de Toulon, il y a quand même beaucoup d'envie, beaucoup de désir, avec des choses assez simples, avec des projections de décors en fond de scène, avec des petits éléments qui passent, la petite boîte sur roulette, là encore, qui fait la petite chambre des deux sœurs. Enfin, il y a des choses simples, parce que j'imagine que c'est aussi à la hauteur de la production. Et ça va vite aussi. Je trouve qu'il arrive quand même à suivre assez bien le rythme, au moins scéniquement. Musicalement, c'est une autre question. Laurent Burey ?
Alors, je voulais que je parle de scéniquement, musicalement.
Allez, continuons sur la mise en scène pour rester...
Sur la mise en scène, je trouve effectivement qu'elle est plutôt réussie. Que sur un plateau... vraiment pas grand.
Ah oui.
On arrive grâce à des vidéos qui sont pour une, enfin, ça n'est pas toujours le cas, mais qui sont là tout à fait judicieuses, qui arrivent à justement situer les différents endroits parce que les lieux de l'action changent très souvent. Mmh. Il y a aussi cette petite boîte qui évoque la toute petite chambre des deux sœurs. Alors, il manque juste un détail pour bien comprendre. On voit tous ces gens qui arrivent, qui déboulent dans la chambre pour un oui, pour un non. En fait, elles habitent un basement flat, c'est-à-dire un logement qui est à moitié en sous-sol avec un grand soupirail. Et c'est par le soupirail que tous les gens sont censés venir les voir et mettre le nez dans leur chambre. C'est ça qui explique la violation de leur intimité aussi régulière. Bon, ça, c'est juste du détail, c'est pas très grave. Sinon, je trouve aussi que la transposition, car là aussi il y a transposition, a été assez réussie parce qu'au départ, c'est une œuvre de 1953 censée se passer en 1935. Et là, on est complètement en 2018. Vous avez Trump qui apparaît par moment. Si, si.
Oui. Mais justement, moi je trouve pas du tout qu'on soit en 2018.
Non, non, c'est fait intelligemment parce que il y a des détails qui montrent que c'est 2018. Il fait allusion à Stonewall 1969 parce qu'effectivement, ça se passe à Greenwich Village. Et donc, il y a des éléments qui montrent bien qu'on n'est plus du tout dans l'évocation nostalgique des années 30 ou même 50. Mais en même temps, dans les costumes, il y a un mélange d'époques qui vont de 1950 à nos jours, qui font qu'on est en Amérique. En gros, en Amérique, au XXe siècle jusqu'à nos jours, mais c'est pas plus précisément daté que ça.
Anna Segalevich ?
Mais moi, je trouve qu'on n'est pas justement de nos jours. On a plein de clichés, d'images, de signes qui vont un peu dans tous les sens. Mais à part, un petit peu Trump, un petit peu les téléphones portables, etc. Je trouve qu'on est plutôt dans les années, à la fin des années 70, début 80. C'est très quand même Village People, l'esthétique.
C'est très disco, oui.
C'est très disco. Et quand le metteur en scène dit que justement Bernstein est quelqu'un qui était très au présent et qu'il ne faut pas le monter de façon muséale, etc. Moi, je trouve qu'il a raison, mais qu'il ne le fait pas. C'est-à-dire que voilà, je trouve qu'on a un peu tout, et quand on sait à quel point le Greenwich Village est riche de plein de choses, de la Beat Generation, de machin, enfin, il y a énormément de couches. Mais là, elles sont mises un petit peu à plat, elles sont un petit peu étalées, et il n'y a pas de point de vue du tout qui se dégage. C'est-à-dire que c'est un joli patchwork, mais qui reste joli.
Moi, je l'ai vu un peu à travers les yeux des deux sœurs qui découvrent New York. Il y a une sorte de naïveté. Donc, effectivement, tout passe très vite. C'est New York, quoi. Enfin, moi, j'ai vu cette indifférenciation-là. Alors, de façon plus positive que vous, Emmanuel Giuliani.
Oui, moi aussi, je me suis dit, en fait, c'est chacun a ses fantasmes, ses visions, ses éléments de New York, qui sont du New York d'hier, d'aujourd'hui, du vrai, du pas vrai, de l'affiche, de la profondeur, de la surface, de la lumière. Et puis voilà, et on prend un peu tout. Et ça ne m'a pas choqué, non, enfin choqué. Je vois bien que ça vous choque pas, ça ne m'a pas gêné non plus. Et ce que j'ai apprécié dans les vidéos, c'est leur grande musicalité, parce qu'elles sont vraiment, contrairement au chef d'orchestre, elles sont complètement dans la pulsation de la musique.
Allons-y sur Larry Blank.
Et notamment quand, de manière très très habile, on croise les tentatives d'audition de Elaine qui veut devenir danseuse et les tentatives de se faire lire et voir éditer de sa sœur Ruth qui est journaliste et écrivain, et qu'elles se croisent et qu'on va d'échec en échec, c'est fait avec beaucoup de rapidité, mais pas de précipitation, de fluidité, les vidéos et les lumières à l'avenant, et tout ça très musical. Et c'est vraiment, pour ça, je trouve une réussite, et à la fois avec, qui repose sur un vrai talent de comédien des différents acteurs-chanteurs, et notamment des deux sœurs, qui jouent plutôt mieux qu'elles ne chantent.
Oui. Oubliez préciser.
Oui, mais parce que je suis absolument d'accord. Je trouve que la mise en scène, elle est très bien faite, elle est très bien ficelée, et c'est très bien rythmé, ce qui n'est pas rien quand même.
Bah,
c'est une gageure qui est vraiment
mieux, hein.
qui est totalement, totalement réussi aussi.
Bon, c'est le moment Larry Blanc que vous ouvrez, Emmanuel Giuliani, le chef.
Alors, le moment Larry Blanc. Alors, si on met le DVD un peu tard et qu'on a une longue journée, la direction de Larry Blanc risque de vous faire tomber dans les bras de Morphée. Comment, avec une musique pareille, un orchestre qui, sans être... et notamment, il y a des vents qui font très bien leur travail. Enfin, on sent qu'il y a un plaisir. De même, les choristes ont certainement un plaisir à chanter et jouer. Mais comment a-t-on une direction aussi lymphatique? Et qui en plus dessert les faiblesses des chanteurs, que ce soit le collectif justement choral ou les solistes. Il faudrait un orchestre qui les soutienne, qui leur donne la pulsation, qui sache un peu couvrir quand il y a des aigus frauduleux et qui au contraire leur ménage un tapis très délicat quand on est dans le grave et qu'on n'entend plus rien. Et il fait tout le contraire. Comme il ne fait rien, ça n'aide pas. Là c'est vraiment assez incompréhensible.
Laurent Burie.
Je crois qu'au départ c'est surtout un orchestre arrangeur et pas spécialement un chef. Je ne sais pas pourquoi et comment il est arrivé dans cette production.
À Toulon,
mais
peut-être.
Oui, voilà, peut-être.
Non, c'est gentil.
Effectivement, pour ce qui est des voix, sont pas des voix d'opéra, sont pas forcément des gens qui ont une.
Sont des gens c'est qui... amplifié, hein, ils chantent avec
oui,
micro.
Oui, ils ont tous un micro. Bon, voilà. Ce sont des gens qui savent danser, qui savent jouer la comédie en anglais et qui ne sont pour la plupart, qui sont québécois ou français d'ailleurs, qui ne sont pas forcément anglophones au départ. Alors, bon, ils assurent une grande partie de ce qu'on leur demande. Parfois, effectivement, ça déraille.
Un dernier mot, Anna Messegalevitch.
Sur les chanteurs, il n'y a pas de grande voix, objectivement. Voilà, on peut pas, il n'y en a pas un qui sort du lot comme grande voix. Mais ce sont des performeurs.
Mais les deux sœurs, notamment, sont quand même bien choisies.
Voilà, les deux sœurs sont extrêmement bien choisies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Raphaël Cohen, elle jouait Sarah dans le Bal des Vampires.
Absolument.
Dans le musical de Roman Polanski. Et les deux sont... Elles sont vraiment très bien. Effectivement, l'anglais est parfait, le théâtre est très bon, et puis la bascule du théâtre à la musique, ce qui n'est quand même pas du tout évident, est parfaite. C'est très très réglé,
et
elles le font
aussi.
Très bien, elles l'assument avec beaucoup d'aisance.
Et elles ont une très belle complicité. Il y a une vraie tendresse. Une vraie tendresse.
Absolument. Bon, ben voilà, regardez par vous-même. Wonderful Town, c'est en DVD, Blu-ray chez Bel Air Classique, c'est cette comédie musicale, c'est pour sa création française à l'Opéra de Toulon, de Léonard Bernstein, dirigée par notre ami Larry Blanc, mise en scène par Olivier Benezèche. C'est le moment du coup de cœur d'Emmanuel Giuliani pour La Vigne écarlate de Vincent Borel, un livre publié chez Sabine Vespizer. Pourquoi entendre du Bruckner alors qu'on parle d'un livre de Vincent Borel, La Vigne écarlate?
Parce que Anton Bruckner est le héros, à la fois héros et anti-héros de ce roman, récit-roman de Vincent Borel, les mélomanes et les musiciens connaissent bien son nom. On le lit fréquemment, notamment ses notes de programme au Théâtre des Champs-Élysées, ses ouvrages, ses articles, ses critiques et ses livres. Il est fidèle aux éditions Sabine Vespizer, excellente édition, et qui... elles aussi lui sont fidèles. On lui doit déjà des ouvrages sur Lully et Wagner, si on pense à la musique. Et là, donc c'est un portrait, c'est un roman court. contrairement aux symphonies de Bruckner et à la longue vie, mais à la fois d'une telle densité et littéraire et dans la manière de choisir tel ou tel épisode de la vie de l'homme et du créateur Bruckner, qu'on a vraiment l'impression d'avoir embrassé tout l'avantage d'avoir embrassé une vaste fresque et tout l'avantage d'avoir lu un roman court, très bien écrit et qui ne pèse pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, rien que pour ça, c'est un exploit. Et puis, alors que le personnage que l'on nous décrit, de l'enfance jusqu'à sa mort, est un peu, on dirait, quelqu'un de mal dégrossi, qui n'est ni séduisant physiquement, ni vraiment dans ses rapports psychologiques, il n'en a pas beaucoup, qui est très inhibé pour tout ce qui concerne les choses de l'amour et de la chair, qui a une relation complexe et difficile à lire, si tant est qu'on puisse lire ça aux religieux, qui est un organiste génial et passionné, et qui est à la fois un compositeur de symphonie, on a entendu le début de la septième, parce qu'avant cette symphonie-là, il n'arrive pas à se faire aimer et le succès déboule dans sa vie alors qu'il est déjà très tard. Et ce personnage un peu antipathique, un peu taiseux, etc., il nous le rend profondément attachant, profondément vrai dans ses grandes faiblesses et dans son grand génie. Et vraiment, c'est absolument magnifique. Et ce qui est formidable dans ce livre, comme dans certaines œuvres musicales ou dans certains livres, c'est qu'on y aime tout. Et il y a des moments qu'on aime encore mieux. Et vraiment, je conseille, et je pense que tout lecteur aura envie d'y revenir, il y a ce chapitre qui s'appelle « L'humble instituteur », où le jeune Bruckner est à la fois instituteur dans une obscure école de campagne, et en même temps laboureur pour gagner de l'argent. Et les lignes, les sillons sur la terre et les lignes de la partition, on pourrait se dire « Oh là là, la métaphore !» C'est écrit de manière tellement magnifique et tellement belle qu'on en arrive à s'interroger sur son rapport à la musique de manière... Non, c'est vraiment très 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 beau.
Ben, vous nous donnez très envie, bouleversant. Giuliani, de lire La vigne écarlate de Vincent Borel, édité chez Sabine Weispizer.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Le dernier sujet au sommaire de cette dispute, c'est un disque d'un pianiste dont je vais laisser Anna Sigalevitch dire le nom.
Ben, je crois Lucas Genioušas.
Oui, parce que tout à l'heure, j'ai mal prononcé, mais Genioušas.
Oui, bon. je dis comme ça, mais ça veut dire que j'ai raison.
En tout cas, il a gravé ici les sonates pour piano numéro 2 et numéro 5 de Prokofiev pour Mirar, ainsi que les 10 pièces pour piano opus 12. C'est le premier disque de ce pianiste né en 90 sur ce label, composé d'œuvres. Ils font déjà des signes comme quoi je dis des bêtises, mais laissez-moi finir mes phrases, Laurent Burry. Et Anna Sigalevitch.
Ah non, moi j'ai rien dit.
Si, je vous ai vu. Non, composé d'œuvres qui s'échelonnent sur une quarantaine d'années de créativité. Genioušas ambitionne de graver l'intégrale Prokofiev. On écoute le début de l'Allegro de la sonate numéro 2.
Thank you.
Voilà pour cet extrait du disque. On a parlé d'un livre juste avant, mais de Lucas Genuchat.
On va le dire doucement.
Bon, alors maintenant qu'on vous lit dans les colonnes du Monde, Anna Segalevich, je sais un peu ce que vous pensez de ce disque. Vous allez pouvoir le dire cette fois à l'oral.
Ah oui. C'est un disque qui m'a beaucoup plu. Donc c'est un jeune pianiste. Hein, il a 28 ans. Il est deuxième prix au concours Tchaïkovski, au concours Chopin. Chopin en 2010, Tchaïkovski en 2015. Il joue un répertoire assez vaste. Chopin, Brahms, pas mal de répertoires russes quand même. Rachmaninov beaucoup. Puis des compositeurs un peu méconnus du 20e siècle du répertoire russe. C'est un Prokofiev que je trouve intéressant parce que je trouve qu'il est pas banal. C'est un Prokofiev qui est sans sarcasme, qui est sans les grimaces dont on l'affuble parfois. Parfois, ça peut en manquer un petit peu, notamment par exemple dans les mouvements lents ou dans la cinquième sonate, je trouve. Mais moi, c'est un piano que je trouve extrêmement élégant, très noble, avec techniquement, enfin digitalement, c'est remarquable, d'équilibre, d'aisance, de transparence, de légèreté. La sonate numéro 2 dont on entendait le premier mouvement, il y a plusieurs thèmes, on les entend tous extrêmement bien, on sent qu'il va au fond des choses, il y a beaucoup d'esprit, d'intelligence et de profondeur, je trouve, dans sa façon d'aborder les œuvres. Voilà, c'est pas lyrique, pas exactement, mais il y a beaucoup de noblesse, ça s'articule extrêmement bien, on sent qu'il sait où il va, qu'il pense loin, qu'il pense grand, qu'il pense haut et fort. Il y a beaucoup de poésie aussi, et moi c'est un piano que je trouve vraiment très noble et très beau.
Emmanuel Giuliani sur ce disque.
Alors, sans doute parce que je suis pleine de clichés, si je n'avais pas su qui jouait, je me serais dit, oh là là, voilà une interprétation à la française. On entend, là dans l'extrait, on entend du Chopin. À certains moments, ça fait vraiment cette musique un peu fin de siècle. Debussy, on entend du Fauré. Et je me serais dit, voilà un jeune pianiste français qui est gonflé pour apporter justement cette ligne claire, cette transparence, ce côté peut-être en effet sur la réserve, mais sans pour autant être froid dans cette musique. Et puis ce n'est pas, voilà, ce qui montre la limite des clichés, c'est que c'est complètement à côté, mais il n'empêche que c'est ce qui m'a plu dans cette interprétation, c'est justement de tout en, quand il le faut, honorant évidemment le côté percussif, incisif, affûté, aiguisé de Prokofiev, mais c'est en lui donnant cette espèce, c'est ça, de volubilité éloquente mais calme, de sérénité, de ligne claire, et c'est vrai que ça devient très séduisant. Alors, peut-être que certains n'y retrouveront pas leur Prokofiev à la fois tout imprégné de classicisme, mais voulant mordre aussi dans cette musique du XXe siècle qui l'environne et dans laquelle il est partie prenante. Le Prokofiev qui est aussi un compositeur pour la danse. Peut-être on n'aura pas tout ça, mais finalement...
C'est l'intérêt de
graver de nouveaux disques et d'avoir de nouvelles versions. C'est qu'en plus, avec cette prise de son là aussi, qui n'en fait pas trop, qui est élégante, qui équilibre bien, ben voilà, une vision de matin de printemps, moi, qui me plaît bien.
Alors, est-ce que je suis pas sûr que ça plaise à Laurent Burie?
Si, si, moi j'ai été surpris aussi. J'avais le même mot qu'Emmanuel vient de prononcer, le mot de sérénité.
Ouais.
Et par exemple, je pense au scherzo de la deuxième sonate, qui est un morceau qu'on a l'habitude d'entendre jouer de manière très, très fiévreuse, très excitée sur le piano.
On croit donc
là,
très russe.
Presque comme une toccata.
Et là, au contraire, c'est pris de façon...
Ouais, ouais.
C'est pas plus lent, même pas une question de tempo, c'est vraiment une approche de cette musique qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme, en fait, sereine, c'est ce qu'on disait. Et à côté de ça, oui, on a aussi quelquefois une impression d'entendre de la musique française. Moi, c'est à Debussy un peu, mais aussi à Erich Satie dans les 10 pièces qui sont à la fin du disque. Il y a notamment une allemande qui m'a vraiment fait penser à du Satie.
Alors, c'est une œuvre de jeunesse, celle-là, pour le coup.
Oui,
hein. Il est vraiment très jeune quand il le compose.
Mais qu'est-ce que Prokofiev avait comme contact avec les compositeurs français déjà à cette époque-là? Je ne suis pas sûr qu'il en ait eu énormément. Et est-ce que c'est une affaire liée à l'interprétation? Ça, je ne sais pas. Mais
Oui, sur le programme du disque, quand même, parce que s'il veut faire intégral Prokofiev, ce qu'on lui souhaite, à Lucas
Guénuchas.
Merci. Pourquoi avoir fait ce choix-là pour ce premier disque? Selon vous, c'est un bon choix, Nassim
Yelevitch? C'est des œuvres de jeunesse. La sonate numéro 2, c'est une œuvre assez emblématique, donc je trouve que c'est effectivement assez logique de la mettre. Et puis, la sonate numéro 5, moi, n'est pas dans mes préférées, mais c'est un équilibre que je trouve bien. Et puis, ces miniatures, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces pièces opus 12, je crois. Opus 12. J'aime beaucoup. Puis, il y a une montée en puissance, en plus, je trouve, dans l'interprétation entre, dans les trois derniers, donc dans l'allemande, le scherzo humoristique et le dernier scherzo, où ça monte. Et puis, alors, oui, il y a aussi le prélude qui est d'une légèreté, qui est d'une transparente. Je trouve que ces pièces opus 12, c'est des miniatures qui montrent très bien la personnalité d'un pianiste et qui fait ça vraiment comme un peu comme un maître orfèvre où il cisèle chaque détail, tout est extrêmement précis, sans maquillage et sans grimace.
Je
trouve très réussi aussi le début de cette cinquième sonate qui a l'air de ne pas se décider à commencer. Et au lieu d'être pianiste qui va nous montrer qu'en fait tout ça est une grande arche et très construit et que... On a l'impression qu'il découvre comme nous, avec un mélange d'étonnement et de ravissement, le fait que cette sonate, elle commence de manière un peu bizarroïde, aussi bien mélodiquement qu'harmoniquement, qu'on n'est pas encore tout à fait dans son affaire, ce qui fait que quand ça se tend plus, que la dynamique devient plus forte, on est vraiment dans un récit et il accompagne notre écoute pour ça. Et ça, je trouve que c'est de la part notamment d'un jeune pianiste, même s'il a beaucoup d'expérience et qui travaille ça depuis très longtemps, mais c'est déjà un point de vue dont on se dit, mais combien faut-il avoir réfléchi à une œuvre et à la manière dont je vais la proposer au public pour justement être dans ce chemin de traverse. Et ça, rien que pour ça, je l'en remercie beaucoup.
Et il a ce talent de pouvoir d'évocation. Il raconte des histoires, vraiment. Il n'est pas du tout collé au clavier, quoi.
Écoutez les histoires racontées par Lucas Guénuchas. J'arriverai pas. Avec ses œuvres de Prokofiev.
De toute façon, je vous en dis totalement en erreur.
Peut-être. On aura peut-être des courriels, des messages qui nous diront comment bien prononcer le nom de ce talentueux pianiste qui sort donc ce disque chez Mirar.
On peut dire Mirare aussi.
Après ce bon conseil de Laurent Burri, le jeu de la dispute. Des fois, j'aime bien dire mirare, à la Corse peut-être, ou mirare, avec un accent latin qui n'existe pas, donc en forçant bien sur le « et ». C'est le jeu de la dispute avec Sarah Dion, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir, et avant de nous donner sa réponse, Sarah.
Oui, la question était: à quel siècle remonte la création du Théâtre des Célestins à Lyon? Et la réponse est au XVIIIe siècle.
Je n'aurais pas su. À gagner ce soir. Bah oui, c'est la réponse qu'on imaginait.
Et ben voilà.
D'où la bonne question. Allez, ce soir, quelle question pour gagner des invitations pour le spectacle Plaisirs Inconnus? C'est à l'affiche du théâtre de Chaillot. C'est un ballet du ballet de Lorraine. Place à gagner pour vendredi soir, 18 janvier à 20h30. La question, Sarah.
Quelle figure du théâtre national populaire était à la tête du théâtre de Chaillot dans les années 50?
Ça, c'est moins dur peut-être quand même. Hein. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Dispute que vous pouvez aussi réécouter sur ce site. Vous pouvez également vous y abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Sarah Hiller-Meyer, Stéphane Coréard et Florian Guettet à notre affiche Caravage à Rome. Ce musée Jacques Marandré, tout au Ponti, Gio Ponti, archi-designer. C'est au musée des arts décoratifs, monumental, minimal, à la galerie Thaddeus Ropac de Pantin. Et puis un coup de cœur pour l'exposition de Nathalie Dupasquier à la galerie Yvon Lambert.